Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant.
Promis dans le précédent opus de Hashtag 2050 en bref, aujourd'hui nous plongeons ensemble dans l'océan Tadam. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt sable blanc, cocotier, et le cocktail qui va avec, ou côte rocheuse, écume qui joue avec le vent. Dans tous les cas, au programme du jour, la mer, l'océan, une reco avec une belle surprise qui vous y attend, et une actu, une sacrée actu.
Tu dis où est la mer ? Il me dit la mer, elle est démontée. Ah ben j'ai voulu la remonter quand ? Il me dit c'est une question de temps.
Il n'y a pas que la mer qui est démontée, le climat aussi. Et que l'un dans l'autre, rien ne va plus, faites vos jeux, mais notre main n'est pas trop bonne. De plus en plus de plastique, de moins en moins de poissons. Vous avez forcément entendu passer cette info. Si on laisse couler le système comme il va, en 2050, il y aura autant, voire plus de plastique que de poissons en mer. Et j'en ai encore pour vous. Mais comme il se doit, je commence par notre ami le GIEC. Oui, le GIEC est notre ami, même s'il annonce la fin de notre monde, il est notre ami. Et dans son rapport spécial, déjà évoqué précédemment, sur la cryosphère et l'océan, il nous apprend énormément. Il faut en passer par quelques chiffres clés. 71%, c'est la surface de notre chic planète couverte par les mers et océans. 680 millions, c'est le nombre de personnes vivant en zone côtière basse. Et 1 milliard en 2050, toujours selon le GIEC. 15 cm, c'est l'élévation du niveau de la mer au XXe siècle. Au XXIe siècle, là maintenant, depuis 19 ans, on est passé à 3,6 mm par an. Vous la sentez là, l'accélération ? Genre, ce siècle se la joue deux fois plus rapide. La température des océans, elle aussi, elle monte sans relâche depuis 50 ans. Outre qu'a priori, ça pourrait sembler plutôt sympathique pour nos chers orteils, ce réchauffement des eaux a des conséquences importantes. La densité de l'eau n'étant pas la même selon sa température, les eaux se mélangent moins. Les eaux plus chaudes restent en surface et les eaux froides sont au fond. Conséquence, l'oxygène de l'eau circule moins, tout comme les nutriments. Autre ingrédient de ce funeste cocktail, l'océan absorbe 20 à 30% des émissions de dioxyde de carbone générées par l'humain. Bim, ça contribue à acidifier les eaux, et in fine, le parfum est plus qu'amer. Les écosystèmes s'appauvrissent, voire meurent. RIP, le corail.
Il est tout frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais.
Ajoutez à ce cocktail la surpêche. Saviez-vous qu'en 2014, l'aquaculture apportait autour de 44% de la production de poissons à l'échelle mondiale ? Et pourtant, dans les mers et les océans, encore cette surpêche. Montée des eaux, acidification, moins de poissons, pollution. Vous vous posez une question, et moi aussi je me la suis posée, mais il doit bien y avoir quelques bonnes nouvelles, non ? Alors j'ai décidé que désormais, en bref, vous apporterez aussi quelques bonnes nouvelles. Allez ! L'Union européenne interdit les objets en plastique à usage unique à partir de 2021. Les poissons nous disent merci. La deuxième plus grande barrière de corail au monde, au Belize, petit état bordant la mer des Caraïbes, n'est plus dans la liste du patrimoine mondial menacé de l'UNESCO. Chouette. La pêche industrielle est désormais interdite. Alors là, désolé, ma phrase n'est pas finie. Interdite donc sur des périmètres temporaire. Ça a été le cas en Sierra Leone, pays situé en Afrique de l'Ouest, pendant un mois cette année, histoire que les stocks de poissons se reconstituent un peu. La pêche électrique, beau spécimen de pêche industrielle, quant à elle, n'aura plus droit de séjour en Europe à partir de 2021. En voilà une nouvelle, qu'elle est belle. Évidemment, en description de cet épisode, des liens vers des études fort utiles en la matière, le rapport du GIEC, un autre de Greenpeace et un troisième de la FAO. Allez, on passe à la reco.
Ici, on ne vend que de petits objets de forme rectangulaire que l'on appelle livres. Ils demandent quelques efforts et ne font pas de bip-bip-bip-bips.
Mais alors, je suis, mais vraiment de chez vraiment heureuse de recevoir pour la première fois et certainement pas la dernière fois, de recevoir Stuart Calvo des éditions La Volte pour vous offrir votre reco-lecture.
Je vais vous parler de Trafalgar d'Angelica Gorodischer. Angelica Gorodischer, c'est une autrice argentine qui est aussi connue dans son pays que Borges, que Cortázar. Trafalgar est son livre le plus étudié dans son pays. C'est un livre qui a été publié en 1979, en pleine dictature argentine, en pleine dictature militaire. Et c'est important de savoir ça pour bien comprendre la portée de Trafalgar. Trafalgar, c'est 9 récits, 9 nouvelles, 9 histoires qui nous sont racontées par Trafalgar Medrano, un voyageur intergalactique, aussi un commercial, qui voyage de monde en monde, de planète en planète, et qui revient ensuite se poser sur Terre, dans la ville de Rosario, dans son bar préféré, le Burgundy, et qui raconte à ses amis, souvent, qui sont souvent des femmes, les aventures qui lui sont arrivées. Ce sont des aventures qui mettent systématiquement en scène des systèmes d'oppression, qu'ils soient religieux, politiques, militaires, coloniales. Et on a pu dire que Trafalgar était une critique masquée de la dictature militaire, mais en fait, quand on connaît un tant soit peu le contexte, ça crève les yeux. C'est vraiment de A à Z une dénonciation, finalement, de l'autoritarisme, mais également de la domination de l'idéologie masculiniste, puisque Trafalgar raconte ses aventures à une interlocutrice qui devient finalement sa contradictrice et qui prend la place autant que lui dans la narration des histoires. C'est un système narratif qu'on connaît, qui est connu, qui est notamment utilisé par Jules Barbet de Rivoli dans La vengeance d'une femme, où la prostituée va confisquer la parole du narrateur pour raconter sa propre histoire. Donc ne serait-ce que par cela, on a vraiment cette technique de déconstruction systématique de la parole masculine qui est mise en scène à travers chaque nouvelle. C'est aussi Trafalgar une déclaration d'amour à la science-fiction. Gorodischer cite plusieurs auteurs et autrices de science-fiction au travers des nouvelles. Donc on a Ursula Le Guin qui revient à plusieurs reprises, Philip K. Dick ou encore Von Goethe. Et elle fait dire à l'un de ses personnages, dans une des histoires, « Moi, à part la science-fiction et les romans policiers, je ne lis que Balzac, Cervantes et Corto Maltese. Tu iras loin avec ce cocktail absurde. » Absurde, qu'est-ce qu'il a d'absurde? Ce sont les rares auteurs qui ont tout ce qu'on peut demander à la littérature. Beauté, réalisme, divertissement, que veux-tu de plus? Donc déclaration d'amour à la science-fiction, mais aussi déclaration d'amour à la bande dessinée. En effet, dans Trafalgar, on a par exemple la toute première nouvelle du recueil qui raconte un système totalitaire où la bande dessinée a été interdite car elle trouble les mœurs. Et on a aussi quelques références à la série L'Éternaute, qui est une série argentine, de l'auteur Hector Osterheld. Et là, c'est assez poignant puisqu'on sait que Hector Osterheld fait partie des desaparecidos, de ces personnes qui ont disparu pendant la dictature militaire. Et ça serre le cœur de lire ces nouvelles où Angelica Gorodischer se bat finalement entre son désir de changer les mondes, de changer les choses, d'inviter le lecteur à réagir à ces systèmes totalitaires, où elle appelle finalement à ses côtés ceux qui se sont battus contre la dictature, mais également son désir de fuite. On a l'impression, au travers des récits, que ce à quoi aspire l'autrice, c'est finalement partir avec Trafalgar dans sa guimbarde, dans son vaisseau spatial, et partir avec lui et fuir à chaque fois ces systèmes dictatoriaux qui sont mis en scène. Plus on avance dans les nouvelles, plus on trouve des récits de résistance contre l'ordre établi, et plus les femmes également prennent la main, prennent le pouvoir, et le recueil se clôt sur une dernière nouvelle où l'héroïne n'est autre que Érythréa, qui est la propre fille de Trafalgar. Et je vais vous lire un petit passage pour vous présenter un petit peu qui est cette Érythréa. Mais évidemment, dès le CM2, il est clairement apparu qu'il allait être impossible de continuer à scolariser Érythréa. Non seulement elle faisait tout ce qu'avait raconté la directrice adjointe, mais elle embobinait ou dirigeait ses camarades pour faire retirer la sanction d'une élève rebelle, ou pour protester, parce qu'on ne les laissait pas jouer au football. Ce n'est pas pour les gonzesses. Ou pour pouvoir venir à l'école déguisée, pirate, fantôme, princesse russe et odalisque étaient des costumes de prédilection. Donc voilà, un recueil qui se termine avec peut-être une aspiration au renouveau, peut-être une lueur d'espoir qu'incarne Érythréa, la fille de Trafalgar Medrano.
Un petit extrait de Trafalgar, ça vous tente? Allez.
Un extrait de la nouvelle « Le meilleur jour de l'année ». C'étaient des maquisards, des guerrieros, même si eux se donnaient le très mélodramatique nom des seigneurs de la paix. Je préfère ne pas imaginer à quoi devaient ressembler les seigneurs de la guerre. Et leur chef prenait le titre de serf. Ils se battaient, comme ils pouvaient, contre les capitaines. Les capitaines formaient la caste militaire qui gouverne le monde à sa manière. Rien d'original, par ailleurs. Les seigneurs étaient pleins d'espoir ces derniers temps, car les capitaines se scindaient en groupes qui se battaient entre eux. Rien d'original non plus. Chacune des factions des capitaines avait sa propre armée, avec un uniforme d'une couleur distincte. Les rouges venaient de battre les jaunes et patrouillaient dans la zone en tuant des fugitifs. Et au passage, seigneur, qui est en train de gagner? Ai-je demandé. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Ils pensaient parvenir à les saigner car les capitaines se fragilisaient en se combattant les uns les autres pour le pouvoir absolu, avec cette propension qu'ont les types tiraillés par la mort à croire que le pouvoir absolu va les sauver de quelque chose. Et ils les attaquaient suivant la vieille technique qui consiste à apparaître là où les autres vous attendent le moins. En plus, même si les capitaines payaient bien et punissaient encore mieux, il y avait de nombreuses désertions, et les soldats rejoignaient par troupeaux entiers les rangs des seigneurs. Mais moi, qui connais un peu d'histoire, je n'étais pas aussi optimiste. Eux ne savaient rien de manière sûre. Il n'y avait ni journaux, ni radio, ni communication d'aucune sorte, et les moyens de transport terrien, aquatique, aérien, étaient tous aux mains des capitaines, même s'ils volaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils envoyaient des espions ou des messagers dans d'autres zones, et des hommes arrivaient parfois de loin avec des nouvelles qui ne valaient plus rien. Sir Dividis était né quand les dictatures des capitaines commençaient à devenir puissantes. Et il se souvenait, un peu, pas beaucoup, d'un monde sans guerre. Il m'a raconté des horreurs. Il s'est emporté et a pris un discours qui, je crois, n'était adressé ni à moi ni à ses hommes, mais à lui-même. Il m'a demandé de quel côté j'étais. Je lui ai dit du leur, évidemment. Tu penses bien que je n'allais pas me mettre à discuter.
Évidemment, en descriptif, le lien vers Trafalgar d'Angelika Gorodischer, publié chez La Volte. Et avant de passer à l'actu du jour, j'avais juste envie de vous faire entendre la voix d'Angelika.
La recette pour écrire une nouvelle
Ah, bueno,
¿cómo? Es facilísimo. Se trata nada más que de contar cosas que no les pasaron nunca a gente que no existió jamás.
Enfin, l'actu du jour. C'est une actu qui concerne le podcast. Oui, puisque j'ai réussi à obtenir une accréditation pour la COP25 qui se tiendra du 2 au 13 décembre prochain à Madrid. Comble du luxe, je vais pouvoir m'y rendre chaque jour à vélo car ça se passe à 15-20 minutes de chez moi. Le truc improbable, un sommet international à vélo, je m'y vois déjà. Bref. Et pour l'occasion, une édition journalière du podcast vous attend pour tout comprendre de la COP et de ce qui se passe autour. Oui, parce que figurez-vous qu'une contre-COP devrait avoir lieu. Extinction Rebellion aussi prévoit des actions. À l'intérieur de la COP, j'ai prévu de rencontrer des acteurs politiques, associatifs. J'ai aussi envie de voir si deux ou trois lobbies ne traîneraient pas dans le coin. Alors, spoil, j'en ai déjà repéré quelques-uns. Bref, début décembre sera sacrément dense. Et j'ai hâte de m'y frotter. Il est temps, donc je vous laisse avec quelques messages à caractère informatif. Vous pouvez me laisser un message sur mon répondeur, en particulier si vous avez des questions sur la COP et compagnie, ça m'intéresse, alors n'hésitez pas. Vous pouvez partager cet épisode largement sur les internets, sur les réseaux sociaux, avec un mail envoyé à celles et ceux qui le valent bien. Il fera aussi un chouette sujet de conversation, bien pratique pour vos pauses café, avec les collègues, essayez et dites-moi. Notre prochain rendez-vous sera une conversation. Vous voulez des indices? Le 27 ou le 28 novembre, je balance une petite vidéo teaser de l'épisode sur ma chaîne YouTube. Et l'épisode sortira le 2 décembre. Enfin, un grand, grand, grand merci à Stuart de m'avoir rejoint et de se prêter à l'exercice de la chronique. Sa culture en science-fiction, mais pas que, sied à merveille à cet espace qui propose de lier futur et présent. Il me reste à vous chuchoter à vos oreilles, que j'espère souriantes, un doux «